Donc maintenant, après avoir traité mes années de lycéen et ma conversion, je vous propose mes années d'étudiant. Et j'ai choisi un titre provocateur, Mes frères protestants et, entre guillemets, les catholiques égarés. Je vais dans cette partie aborder mon expérience du protestantisme évangélique et mon retour à l'Église catholique, et j'en profiterai pour parler de la lecture de la Bible. Donc comme je le disais, titre provocateur, mes frères protestants, les catholiques égarés. Mais quand je devins étudiant, j'étais prêt pour accueillir une telle affirmation. Ces années correspondirent à un approfondissement de ma foi, approfondissement qui prit comme cadre non plus Belfort, mais Strasbourg. En effet, étant devenu étudiant, j'ai dû déménager dans ce que l'on appelle une ville universitaire. Ces années furent tout à la fois douloureuses et joyeuses. Douloureuses parce qu'elles virent le divorce de mes parents dans des circonstances que je préfère taire. Mais, comme je viens de le dire, elles furent aussi joyeuses. Ce fut en effet à ce moment que je rencontrai ma promise. Comme bien des gens, mes souvenirs d'étudiants sont inoubliables. Quelle période bénie où l'être humain, après s'être formé corporellement durant la puberté, achève de se former intellectuellement et, s'il le veut bien, forme son cœur et son intelligence à la foi, dans des directions qui influenceront toute sa vie. Période d'insouciance sous les responsabilités familiales et professionnelles n'existe pas encore. Liberté sans les parents, période bénie, mais période de tous les dangers, où livré à soi-même, dans une grande ville sans parents, la liberté peut être bien mal utilisée. Qu'est-ce à dire? Eh bien, il est sûr que se retrouver seul sans ses parents, libre de gérer son emploi du temps, quel changement! Vivre seul, se faire de nouveaux amis, c'est si exaltant. Je viens de dire que j'étais libre de gérer mon emploi du temps. En fait, ce n'était que partiellement vrai. Je n'étais pas à l'université où l'emploi du temps est effectivement très souple. J'étais en classe préparatoire, l'ETSUP, aussi connue sous le nom d'hypocagne. La quantité de travail était bien supérieure à la terminale littéraire où j'avais passé mon bac. Les conséquences ne se firent pas attendre dans ma vie spirituelle. Abandon total de la prière, absorbé que j'étais à m'adapter à mon nouveau rythme de travail. Cette expérience devait d'ailleurs me marquer durablement, dans la mesure où elle me fit prendre conscience de la nécessité de trouver une méthode de prière qui pourrait justement m'aider à éviter ce type de situation où, faute de repères précis au jour le jour, la régularité et la fidélité de la prière s'évanouissent dans le tourbillon de la vie quotidienne. Confère Marc chapitre 4, versets 7 à 8, Marc chapitre 4, versets 18 à 19. Mais il est encore trop tôt pour parler de la naissance de la règle de prière qui justifie l'existence de ce site internet. Je disais donc que par manque de racines solides, je délaissais la vie de prière. Cela dura à peu près un trimestre. Je croyais toujours en Dieu, bien sûr, et il n'était pas question pour moi de me définir autrement que comme chrétien, mais j'avais déserté la vie de prière, laissant Jésus seul à son sort. C'est, me semble-t-il, au début du trimestre suivant, début 85, que la petite flamme intérieure, allumée un an auparavant, se fit sentir à nouveau. Peut-être avais-je enfin trouvé mon rythme. Quoi qu'il en soit, la leçon est bel et bien encourageante. Peu importe nos moments de désertion et d'infidélité, Dieu, lui, est fidèle. Comme je l'avais déjà dit en référence à mon enfance, confère donc dans les profondeurs de l'enfance ou l'humble semence, il ne faut jamais se décourager à propos des moments de faiblesse que nous ou nos proches traversons. Le temps d'exposition à la grâce dont nous avons bénéficié dans nos temps de prière ou dont nos proches ont bénéficié par notre intercession n'est jamais perdu. Bien au contraire, il est un investissement pour l'avenir. Confère Marc chapitre 4 versets 26 à 34. Tâchons de nous en souvenir dans nos périodes de découragement. Bref, de retour à Strasbourg après les fêtes de Noël, j'étais à nouveau travaillé par ce désir de vivre avec mon Dieu, de vivre en chrétien, de témoigner. Mais je n'étais pas mûr du tout pour vivre ce désir de Dieu dans la communion pleine et entière avec l'Église catholique. En effet, ma fréquentation des témoins de Jéhovah avait laissé des séquelles. N'oublions pas non plus que dans mon année de terminale, année de découverte de la foi et de la Bible, je fus très marqué par l'approche protestante, notamment par le biais de Radio-Évangile. Confère Découverte de la Bible, un piège. Ce fut donc tout naturellement que je décidai de renouer avec la vie chrétienne. Et profitant de toutes les nouvelles possibilités que m'offrait une ville universitaire comme Strasbourg, qui, précisons-le, compte un grand nombre de protestants. Le nombre élevé de protestants que l'on trouve à Strasbourg et dans toute l'Alsace s'explique en fait par l'histoire même de cette région de France, qui au XIXe et au XXe siècle fut tantôt française, tantôt allemande. Quand on sait que près de la moitié de la population allemande est protestante luthérienne, on comprend mieux pourquoi il y a tant de protestants en Alsace. De ce mélange des religions, il devait d'ailleurs y avoir pour moi des conséquences plus que durables, puisque ma femme alsacienne, bien qu'étant catholique, est issue d'un mariage mixte, sa mère étant protestante luthérienne. Comme je viens de le dire, j'avais décidé de reprendre une vie active de foi et de prière, en tirant avantage d'une ville comme Strasbourg, où je pourrais sans difficulté rencontrer de jeunes étudiants protestants. Bien déterminé à me lancer dans cette entreprise, il me fut relativement facile de trouver, à l'université ou dans le quartier étudiant à l'Esplanade, je ne m'en rappelle plus exactement, une affiche d'information concernant des groupes bibliques. Je me souviens d'ailleurs très bien de ma première soirée au groupe biblique universitaire, le GBU. L'affiche stipulait que l'étude biblique commençait à 20h30. Je m'étais donc tout naturellement préparé pour arriver au lieu de réunion à 20h30. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait la réunion commençait à 20h par des chants. En plus, je crois bien que je m'étais perdu, une autre bonne raison d'arriver en retard. J'étais donc là, planté devant la porte, n'osant pas rentrer. Je ne pouvais pas rentrer en plein milieu des chants tout de même. Je me rappelle même avoir été soulagé. J'avais trouvé une excuse pour rebrousser chemin, car il faut bien avouer que j'étais crispé à l'idée d'aller participer à ce genre d'études bibliques. J'en avais certes rêvé quand j'étais lycéen, alors que j'écoutais Radio Évangile, mais de là rencontrer ce type de personnes en chair et en os, il y avait un monde de timidité et de réticence. J'allais donc partir, quand un jeune homme arriva, lui aussi était en retard. Il m'encouragea à rentrer, ce que je fis. Je ne pouvais plus me défiler. Fait étrange, ce fut l'unique fois que je vis ce jeune homme. Plus jamais il ne revint, bien qu'il fût connu du groupe. Ma première impression, donc de ce groupe, se résumait à ce que l'on pourrait qualifier de coup de foudre. Comme il croyait avec ferveur, quelle connaissance de la Bible, comme les témoins de Jéhovah, mais en mieux, sans hérésie. Alors, en fait, les réunions auxquelles après j'ai pris l'habitude d'assister étaient toujours bâties sur le même modèle. 1. Chant très vivant et enlevé. Je dois avouer que j'aimerais toujours chanter ce genre de chant, mais les chants de la messe sont souvent malheureusement beaucoup moins rythmés. 2. Ensuite, ce qu'ils appelaient études bibliques, ce qui en réalité n'était qu'un sermon-enseignement plus ou moins en relation avec un texte biblique servant de point de départ. L'enseignement suivait linéairement le texte biblique choisi, avec de nombreuses digressions. Chaque semaine, le livre biblique était continué. Curieusement, seules les épîtres de Paul étaient lues. Pendant bien 2 ans, je trouvais mon compte dans ce type de réunion. J'essayais même d'y emmener des amis, mais aucun d'eux n'accrocha. En revanche, je me fis quelques amis dans ce groupe. Je me souviens même avoir participé avec eux à des ventes de livres religieux dans des restaurants universitaires. Il faisait également du porte-à-porte en site universitaire, mais je n'y ai jamais participé. Je fus littéralement charmé par ce sens de l'évangélisation dynamique, cette vie ecclésiale si simple et dépouillée, sans hiérarchie apparente, à l'image de ce que Jésus semblait préconiser en Matthieu 18, versets 19 à 20, voire aussi Actes 2, versets 42 à 47. De plus, leur connaissance littérale de la Bible au verset près était à mes yeux l'assurance indubitable qu'ils détenaient la vérité pleine et entière. Avec le recul, je me rends compte maintenant que ces protestants évangéliques, donc évangéliques égale protestants très proches du sens littéral des Écritures, voire fondamentalistes, donc avec le temps, je me rendais compte que ces protestants évangéliques avaient certes dans le dogme une foi radicalement différente de celle des témoins de Jéhovah, Trinité, etc., mais que dans le mode d'expression, les schémas de pensée, la méthode d'évangélisation, il ressemblait fort à ces derniers, jusque dans le porte-à-porte. De ces années de flirt intense avec le protestantisme, et pas n'importe quel protestantisme, le plus radical, évangélique et pentecôtiste, mon goût des Écritures, déjà aiguisé par la fréquentation des témoins de Jéhovah, ne fit que se renforcer. Désormais, je ne pourrais plus jamais prendre la Bible à la légère. De même, il devait me rester cette conviction que le chrétien ne peut pas ne pas lire la Bible régulièrement et assidûment. Elle contient les réponses à nos problèmes dans la vie. Jésus lui-même n'a-t-il pas cité les Écritures abondamment durant son ministère, jusqu'au cœur de la tentation? Luc 4, versets 1 à 13. Comment donc, à notre tour, ne pas les considérer comme parole de Dieu, lettre d'amour du Père à l'humanité? Toute la nuance par rapport à ces années est que maintenant, je prends toujours la Bible au sérieux, mais en utilisant mon intelligence et ma sensibilité, qui sont des dons de Dieu, nourries au creuset de la tradition, pour dépasser le premier degré du mot à mot et aller à la substantifique moelle, comme disait Rabelais, en d'autres circonstances. Pour terminer, je voudrais mentionner une autre caractéristique dont je m'étais affublé au contact des frères protestants. Une méfiance, pour ne pas dire une hostilité ouverte au catholicisme. Le retour à ma mère, l'Église, s'annonçait difficile, voire miraculeux. Donc là, je vais aborder un autre chapitre, mais toujours en rapport avec mes années universitaires, que je vais intituler « Retrouvailles avec ma mère, l'Église ». D'abord, une petite introduction générale. Comme je viens de le dire dans la page précédente, mon retour au catholicisme s'annonçait difficile. Il faut bien le dire d'ailleurs, la conversion ou reconversion du protestantisme au catholicisme est relativement rare. On assiste plutôt à l'inverse. Il n'est qu'à regarder ce qui se passe en Afrique et en Amérique latine, où des milliers de catholiques se tournent vers des églises protestantes de type évangélique ou pentecôtiste. Pourquoi? Je pense qu'il y a deux raisons à cette hémorragie du catholicisme vers ces branches jeunes du protestantisme. J'en parle en connaissance de cause, étant donné que j'ai bien failli expérimenter cette désaffection du catholicisme. À mon sens, les deux raisons sont liées. La première s'explique par le fait que les catholiques ont longtemps souffert d'un manque de formation biblique et théologique. Trop longtemps, l'Église n'a pas vu la nécessité d'ouvrir plus largement les portes de ses trésors que sont la Bible et la tradition. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que des catholiques, par ignorance de leur propre foi, se soient tournés et se tournent encore vers des mouvements chrétiens plus dynamiques en apparence. Fort heureusement, les choses changent et, que l'on les aime ou pas, il faut rendre justice au renouveau charismatique catholique qui a su montrer le visage de l'Église catholique plus ouverte et moderne dans ses méthodes d'évangélisation. À cet égard, je me permets de signaler à nouveau que le but de ce site j'ai mis en ligne n'est autre que de partager les trésors de l'Église en les rendant disponibles au plus grand nombre. Ainsi, les catholiques n'abandonneront pas, par ignorance du moins, la foi de l'Église pour d'autres mouvements, fussent-ils chrétiens. La deuxième raison pour laquelle un nombre non négligeable de catholiques préfèrent opter pour le protestantisme tel qu'il est vécu dans certaines branches jeunes de ce mouvement est précisément l'agressivité de ces dernières branches dont je viens de parler, évangéliques et pentecôtistes. Il faut effectivement savoir que des dénominations protestantes telles que les évangéliques, les baptistes ou encore les pentecôtistes n'hésitent pas à déclarer ouvertement que le catholicisme est une doctrine diabolique, que le pape est l'antéchrist et que la papauté est la grande Babylone, la prostituée de l'Apocalypse, confère Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 5. Ici, je voudrais signaler que je parle surtout, quand je mentionne les baptistes, des baptistes américains de la Bible Belt, comme on dit du sud des États-Unis, parce que les baptistes d'autres régions du monde, notamment en France, sont beaucoup moins intolérants et beaucoup plus œcuméniques. C'était une précision à faire. Donc, soit dit en passant, ce genre de phrase est digne des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire que la papauté, c'est la grande Babylone. Donc, ces protestants devraient tous relire cette injonction du Christ lui-même devant l'intolérance de ses apôtres. Il n'est personne qui puisse faire un miracle en invoquant mon nom, et sitôt parler mal de moi, qui n'ait pas contre nous et pour nous. Pour une meilleure compréhension de ce passage, je vous conseille de lire en entier en Marc chapitre 9, versets 38 à 40, ou en Luc chapitre 9, versets 49 à 50. Donc, parler mal de Jésus, cela peut vouloir dire blasphémer ou parler faussement de lui, refusant par exemple ce qu'il est en sa divinité ou son humanité. Pardon. L'Église catholique le fait-elle? Bien sûr que non. Alors, bref, certains catholiques, face à ce discours, on ne peut plus clair, pour ne pas dire simplet et outrancier, n'hésitent pas à prendre pour argent comptant ce type d'idée, d'autant qu'ils ignorent totalement ce qu'il en est réellement de la foi de l'Église. Quelle tristesse! Confrontée à de tels procédés, l'Église est, entre guillemets, trop gentille, dans le sens où elle n'ose peut-être pas appeler un chat un chat. De tels mouvements protestants doivent être combattus parmi les catholiques avec plus de clarté et de lisibilité. Une dernière précision s'impose avant de conclure donc cette introduction générale. Tous les protestants ne sont pas si intolérants, Dieu merci. J'ai eu également le bonheur de connaître des luthériens et quelques calvinistes que l'on appelle aussi réformés. Ils n'avaient, je dois le dire, que peu de choses en commun avec ces mouvements protestants que je viens de mentionner, du point de vue de l'agressivité et de l'intolérance, j'entends. Il faut préciser également que certains pentecôtistes étaient nettement plus nuancés que les évangéliques. En dernier lieu, je dois le dire, les protestants évangéliques que j'ai côtoyés avaient de réelles valeurs chrétiennes et un sens aiguisé de l'évangélisation que nous serions parfois bien avisés de prendre pour modèle. Finalement, quels qu'aient été leurs défauts, je veux le réaffirmer, ils sont pour moi chrétiens, terme que je n'utiliserai pas pour parler des témoins de Jéhovah, que je qualifierais plutôt de secte. Mais ce n'est pas l'endroit ici de définir la différence entre une secte et une branche du christianisme se situant à la limite. Disons simplement que le credo, outre le fanatisme comportemental et sectaire, est le moyen royal pour naviguer dans les eaux troubles de la reconnaissance des sectes. Les évangéliques, baptistes et pentecôtistes croient en tous les articles de notre credo, alors que les témoins de Jéhovah ne croient pratiquement à aucun d'entre eux. Donc, après cette longue digression-introduction visant à expliquer l'abandon de leur foi par de si nombreux catholiques au profit de certaines églises protestantes, il est grand temps de revenir sur mon témoignage personnel. Donc, je vais intituler cette partie « Retrouvailles avec ma mère l'Église », mais cette fois-ci non plus introduction, mais les faits. J'étais donc plein de ces discours et clichés si abondamment véhiculés par mes frères protestants évangéliques. J'étais devenu si méfiant et hostile que je commençais à envisager de me faire rebaptiser par ces derniers. Seule la réaction de mon père et de sa famille m'avait retenu jusque-là. J'étais au sommet de mon hostilité au catholicisme. Je refusais tout en bloc, la Vierge Marie, les saints, le pape, etc. Enfin, quand je dis que je rejetais tout en bloc, ce n'est pas tout à fait exact. Je dois être plus nuancé. En fait, il serait plus vrai de dire que j'avais de très sérieux doutes sur les éléments de la foi catholique que je viens de citer. Des doutes que je n'hésitais pas à formuler ouvertement. Pourtant, ma situation était pour le moins ambiguë. Jugez-en plutôt. Je menais comme une double vie. À Strasbourg, je fréquentais assidûment mes frères évangéliques, m'affichant avec conviction à leur compagnie dans les restaurants universitaires, pour y vendre des publications chrétiennes de leur cru. Mais dès que le week-end je rentrais à Belfort, j'allais à la messe le dimanche ou le samedi soir avec mon père. Je me souviens même que mon père m'avait emmené voir un prêtre pour que nous discutions. Bref, cette ambiguïté que j'entretenais par crainte de franchir le pas et de déclencher ainsi l'incompréhension de mon père me fut en quelque sorte salutaire. Par ce biais, je maintenais un lien, ténu certes, mais un lien tout de même avec l'Église catholique, ce qui, selon toute vraisemblance, empêcha mes doutes sérieux de se muer en opposition ferme et dure au catholicisme. Ce contact minimal me permit aussi de ne pas oublier certaines bases de mon catéchisme qui allaient se révéler être plus qu'utiles. Mon retour vers ma mère l'Église commença par un événement, somme toute anodin. J'étais au restaurant universitaire, aidant mes frères évangéliques à évangéliser par la vente de livres chrétiens. J'étais là, debout, lorsque je surpris une conversation entre un de mes frères protestants évangéliques, un membre honoré et respecté, et un musulman. Comme on devait s'y attendre, la discussion se focalisa sur la divinité de Jésus, qui, rappelons-le, entre cet évangélique et ce musulman, se focalisa sur la divinité de Jésus, qui, rappelons-le, n'est pas reconnue par l'islam, pour lequel Jésus n'est qu'un prophète, il n'est donc pas Dieu. Voilà donc mon frère évangélique embarqué dans une discussion théologique dont il avait, si je me souviens bien, du mal à se dépêtrer. Il faut dire à sa décharge que les musulmans en général sont de redoutables discoureurs. Ils savent très bien intellectualiser les vérités de foi, ce qui explique sans doute pourquoi il aurait inconcevable de reconnaître la Trinité, qui est avant tout une vérité de cœur. La discussion allait bon train, quand tout à coup mon frère lâche une phrase qui n'en finira pas de résonner en moi. « Oui, c'est vrai, Jésus est une créature, il n'est pas engendré, puisque dans la Bible il est écrit qu'il est le premier-né de toute créature, confère Colossiens 1, verset 15. » Alors là, je ne comprenais plus. Comment peut-on dire que Jésus est le Fils unique de Dieu, Jean 3, 16, qu'il est donc le Fils de Dieu au sens propre et non adoptif, et dans le même temps affirmer qu'il n'est pas engendré? Me revint alors cette célèbre formule du symbole ou grand credo de Nicée-Constantinople, parfois récité dans les Eucharisties, « engendré, non pas créé ». Qu'est-ce à dire? D'abord, signalons que ces frères protestants que je côtoyais à l'époque adhéraient à ce credo. Ils n'étaient pas témoins de Jéhovah. Mais pourquoi donc une telle contradiction chez mon frère évangélique? C'est justement là que le bât blesse. C'est bien là la faiblesse du protestantisme en profondeur. Il y a certes chez eux une très grande liberté apparente, chacun lit sa Bible, prie et vit sa foi d'abord individuellement, avant de la vivre communautairement. Cela peut être un point fort dans la mesure où la relation personnelle au Christ est vivante et fervente. Là-dessus, les catholiques devraient prendre exemple. Mais voilà. À force de faire sa petite sauce, on en vient à perdre de vue le saint dépôt dont parle Paul en 2 Timothée, chapitre 1, verset 14. Donc ce saint dépôt que tout chrétien partage avec ses frères, fruit d'une lente méditation et maturation collective depuis les débuts du christianisme, ce dépôt noble, pour prendre une image viticole, n'est autre que ce que l'Église appelle tradition. Si mon frère évangélique avait su son credo et compris toute la lente et profonde interprétation des Écritures qui avait accouché de cette phrase au Concile de Nicée, engendré non pas créé, il ne se serait certainement pas permis une telle légèreté et incohérence. Je décidai donc d'apprendre par cœur ce credo et d'en chercher les fondements scripturaires. Mais il me fallait d'abord comprendre cette parole de Colossiens, chapitre 1, verset 15, « Premier-né de toute créature ». Je ferai remarquer, pour commencer, que la traduction liturgique de nos messes propose « Premier-né par rapport à toute créature ». Mais de toute façon, quelle que soit la traduction, la contradiction apparente avec le fait que Jésus soit bien Dieu né de Dieu, engendré non pas créé, se résout d'elle-même. En méditant sur cette apparente contradiction, je fus d'ailleurs amené à découvrir des vérités, me semble-t-il, profondes sur la personne du Christ et l'amour du Père. Le Christ est solidaire de toute la création. Il en est la tête, il en est le centre, le but, confère Colossiens chapitre 1 verset 16, plus la théologie de Teilhard de Chardin. En ce sens, donc Jésus est bien le premier-né de la création, puisque c'est par l'engendrement de la parole créatrice de Dieu que la création est venue au monde. Sans Verbe, qui est en fait l'agir de Dieu, la création n'eût pas été possible. Le premier acte de création est, si l'on peut dire, l'engendrement du Fils, ce dernier étant en quelque sorte le projet amoureux de Dieu pour sa création, projet qui, bien évidemment, ne pouvait sortir que de Dieu, ne venir que de son cœur, de son fort intérieur. C'est ce que « engendrer » veut dire, confère Jean, chapitre 8, verset 42, chapitre 16, verset 28. En outre, dire que le Fils est engendré de toute éternité ne change rien à l'affaire, si j'ose dire, dans la mesure où cet amour du Père qui sort de lui-même pour aller se donner à un vis-à-vis, le Fils, prélude de la création, a toujours existé, partie intégrante de la personne ou personnalité de Dieu le Père. Je me rendis alors compte que le chemin à suivre était de lire les Écritures à la lumière de la tradition bimillénaire de l'Église. Cette tradition dont l'Église catholique est la grande dépositaire, tant décriée par certaines églises chrétiennes, a le mérite de clarifier notre foi sans pour autant la bâillonner. Oui, vraiment, à l'époque, je me suis pleinement rendu compte que seule l'Église pouvait me fournir le garde-fou minimal qu'est en fait la tradition. Sa tradition et ses dogmes, véritables dénominateurs communs à tous les catholiques, me semblaient clairs. Il présentait donc cette tradition et ses dogmes, il présentait l'énorme avantage d'éviter le flou artistique doctrinal que la petite cuisine individualiste de ces jeunes branches protestantes entretenait plus ou moins consciemment, et ce, tout en me préservant une grande autonomie spirituelle et individuelle. C'est donc tout naturellement, comme je l'ai dit plus haut, que je commençais par le credo. Parallèlement à mes découvertes de la tradition, j'appris à connaître cette église que j'avais si promptement jugée. En effet, certains de mes amis à l'université me firent part de leur foi catholique et me conduisirent à l'aumônerie catholique universitaire. J'y rencontrai l'aumônier qui devait me marier quelques années plus tard. Mais ma découverte de l'aumônerie ne se limita pas aux prêtres. J'y appris aussi à connaître une jeunesse catholique dynamique, ouverte sur le monde, voulant le transformer le plus qu'il est possible, au lieu de le condamner. Confère Jean 3, 17. Oui, je m'apprêtais à aller de découverte en découverte, tant sur le plan théologique que ecclésial. Donc ici, c'est la fin de ce chapitre consacré à ce début de retour chez les catholiques. Mais avant d'arrêter l'enregistrement, je vous conseille d'aller voir ces pages de mon site internet qui s'intitule La connaissance de la tradition, le Concile de Nicée, le Concile de Constantinople, une approche du mystère de la Trinité. Donc vous trouverez ces liens dans l'espace tradition à la page d'accueil. Allez aussi consulter dans l'espace biblique à la page d'accueil la concordance biblique aux pages suivantes. Le Dieu unique et vrai. Et thème additionnel, Scriptura sola, l'écriture seule. Voilà, fin de l'enregistrement.